et la liste des victimes s'allongea. Par pendaison, empalement, éviscération, la mort frappant de manière violente et prématurée les membres de la famille Fosquet. Il arrivait parfois que la mort sautât quelques générations et se vit ainsi reléguée à un chapitre de l'histoire familiale, mais tôt ou tard, elle finissait par réapparaître. La malédiction, d'ailleurs, n'épargnait pas la branche féminine. C'est ainsi que la baronne Agatha périt noyée dans une citerne d'eau pluviale à l'âge de 95 ans, et que Lady Mathilda, fille du baron Alfred, fut décapitée sur la plage de Brighton. En 1724, après que le baron Colin eut été incinéré dans le Vésuve, le titre de Fosquet tomba en déshérence, et ce, jusqu'en 1861. Date à laquelle Réginald, descendant fort éloigné d'un neveu du baron Gilles, parvint à faire valoir son droit à le porter. Mal lui en prit. Moins de 6 ans après avoir reçu sa pairie, il eut l'œil et le cerveau transpercés par une tringle d'escalier. La blessure, devenue purulente, le rendit fou de douleur et entraîna son décès. Peu de temps après, le Times annonçait que son héritier, Rupert, l'avait précédé dans la mort sur une île des mers du Sud, de telle sorte que c'était à présent la veuve de Reginald, Letty Parthena Fosquet, baronne douairière, qui était la plus dangereusement exposée au mortel péril de la malédiction. Chapitre 2. La poussière et le rêve. La poussière n'était pas encore retombée sur le dossier Ashby, et l'opinion publique, dans sa vaste majorité, pensait que dans cette affaire, Sidney Grice avait envoyé un innocent et un de ses propres clients à la potence. Ceci ne servait guère ses affaires. D'autant que le prince de Galles, ayant oublié sa chevalière dans une maison de plaisir, il avait été demandé à Charlemagne Cochrane, et non pas à Sidney Grice, d'aller la récupérer. Qu'il eût réussi aussi promptement et aussi discrètement à s'acquitter de cette mission ne faisait qu'aggraver l'état d'abattement dans lequel se trouvait mon tuteur. Deux affaires se présentèrent à lui, qui consistaient, l'une à apporter son aide à la fille d'un riche industriel du nord de l'Angleterre, dont le gosier se couvrait sans raison d'un gros hématome de type escarboucle bleu, l'autre à démasquer les entourloupes d'une bande de rouquins. Mais en fin de compte, mon tuteur ne croula pas sous le travail cet été-là, et lorsque les jours raccourcirent et que les feuilles se mirent à tomber, emporté par les vents qui balayaient les parcs londoniens, il ne lui resta plus rien à faire. Il se mit à prendre des bains interminables, ne s'extirpant de la baignoire qu'en fin de journée pour aller avaler un maigre dîner avant de se traîner à l'étage sans un mot pour s'enfermer dans sa chambre. Il ne prenait plus la peine de mettre son œil de verre, préférant porter un bandeau en permanence. Lui, qui était d'habitude un lecteur vorace, ne daignait plus ouvrir un livre, ni même jeter un œil à aucun de ses 5 quotidiens. Mais cela n'était pas plus mal, au fond, car mon tuteur réagissait toujours mal aux critiques acerbes. Or, elles foisonnaient dans la presse et dans les courriers injurieux qui lui parvenaient plusieurs fois par jour. Ma mère était morte en couche, et mon père l'avait rejointe dans la tombe au cours de l'été 81, me laissant la demeure familiale, la grange, à Purbold, sans les moyens de l'entretenir. Je n'avais jamais entendu parler de mon parrain, Sidney Grice, mais mon notaire m'assura que c'était un gentleman jouissant d'une excellente réputation. Aussi, lorsqu'il me proposa 6 mois plus tard de me prendre sous son aile, j'y vis un don du ciel. À présent, j'en venais à me demander s'il n'eût pas été plus avisé que je reste, tant bien que mal, dans la maison familiale. Je ne comptais plus les soirées passées à dîner seule, d'un ragoût réchauffé sans viande et de pain rassis. Après quoi je sortais dans la courette pour fumer 2 cigarettes turques sous le cerisier noueux, avant de monter à l'étage pour tenir mon journal à jour. Puis,